Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial et toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir un dieu du rugby, un dieu parce qu'il est apprécié de tous les supporters. Julien Dupuis, passé par le Biarritz Olympique, les Tigres de Leicester ou encore le Stade Français. L'ancien demi-mêlée s'est construit un palmarès hors norme. On en parlera évidemment. Aujourd'hui, il est entraîneur et on a appris une bonne nouvelle puisqu'il va rejoindre la saison prochaine Provence Rugby dans le staff de Maurizio Reggiardo. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafute. Voilà pour le programme. Hein. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous, hein, pour ne rien rater de la saison, même si on se rapproche petit à petit de la fin. En fait, si vous êtes prêts, on va y aller, parce que Raph, il est prêt, il a sa casquette sur la tête, il fait beau, les cigales chantent. Poulain Rafute, saison 6, épisode 38, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain, évidemment. Raph, cette semaine, on va parler de Mont-de-Marsan. On va parler donc de Pro D2. Le club landais a écopé d'une amende de 10 000 euros pour avoir autorisé une haie d'honneur à Julien Caban. C'était au cours de la dernière journée, lors d'un match contre Rouen, à la 60e minute. Julien Caban sort. Une haie d'honneur se forme spontanément. Les joueurs landais, les joueurs de Rouen également. Un beau moment de partage, de convivialité, fidèle aux valeurs du rugby. Eh ben non, la Ligue nationale de rugby n'a pas apprécié. Et sur le plan du règlement, sur le plan bête et strict du règlement, le club landais a pris 10 000 euros d'amende. Et je crois que ça t'a mis un peu en colère.
Oui, tu l'as dit, Julien Caban, joueur emblématique de Mont-de-Marsan, 27 ans de carrière dans les Landes, vient de mettre un terme à sa carrière sous les ovations du stade Guy Boniface. Les joueurs des deux camps forment alors spontanément une haie d'honneur pour rendre hommage au diablotin, au feu follet, au lutin. Julien, ses 225 matchs disputés dans le monde professionnel et sous les couleurs jaune et noir. Ce club mythique qui revendique une identité, des racines, nous prouve par l'intermédiaire de Julien Tasté, capitaine emblématique du club des Landes hier et par Julien Caban aujourd'hui, que l'image qu'on se fait du rugby pro et ses millions n'a pas encore bouffé l'état d'esprit clocher qui fait le sel de notre cher sport. Tu l'as dit Arnaud, cette haie d'honneur, symbolique des valeurs que l'on adore, fait débat et la Ligue nationale de rugby a décidé d'infliger une amende de 10 000 euros au club, je cite, non-respect de la réglementation en matière d'animation et ou de l'horaire du coup d'envoi. Le monde du rugby est alors tombé sur le cul après cette décision qui va à contre-courant de ce qu'on aime, le respect des anciens, le soutien, la famille, la tristesse partagée avec un joueur qui devient légende en un quart de seconde en fin de carrière. On adore voir ce brin de folie qui réunit les hommes et qui nous fait sentir vivants en bons supporters passionnés que l'on est. Ces moments exceptionnels d'hommage à celles et ceux qui nous font rêver sont essentiels. Ces petits bouts de temps où un type sort avec ses enfants dans les bras au milieu des adversaires et frères d'armes nous reconnectent à nos émotions et qui, amateur ou professionnel, Arnaud, ne rêverait pas d'une telle fin. Et puis, pour être un peu moins philosophe et plus direct, si on ne peut plus vivre ce genre de moment, le rugby va devenir ennuyeux et on risque de frôler la chienlit. La réalité n'est pas sur Instagram ni dans des pubs où les valeurs sont marketées pour faire vendre du clic et des produits sans âme, mais bien sur le terrain et dans la rencontre et l'audace de vivre, de ressentir et de partager l'inconnu ensemble grâce à de vrais influenceurs, ces femmes et ces hommes de terrain qui nous influencent justement par leur fidélité, leur appartenance à un terroir, à des valeurs merde. À force de tout museler, de tout interdire, de tout sanctionner, ne nous étonnons pas que la future génération se moutonifie ou n'ait pas de repère. Dans un monde où tout devient aseptisé, où l'audace est tuée dans l'œuf par peur d'être jugée et sanctionnée, notre sport meurt à petit feu par ce genre de sanctions irrationnelles, voire bien trop rationnelles peut-être. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'audace des sportifs, des artistes doivent nous questionner sur notre capacité à contourner certaines règles, parfois trop restrictives et étouffantes. Leurs prises de risque doivent nous inviter à transcender nos peurs et oser. Je le répète, la réalité n'est pas sur les réseaux, mais bien sur le terrain. Ici, l'idée n'est pas de défendre la veuve et l'opprimé. de se prendre pour un super-héros défenseur des grandes valeurs, patin coup fin, ou s'insurger contre la Ligue, car il y a bien sûr des règles à respecter. Mais plutôt de se lever comme un seul homme et faire front ensemble pour que ces règles n'effacent pas petit à petit du paysage rugbystique les valeurs chères à nos cœurs. Alors, j'arrête là l'instant philo. Un peu relou, j'avoue. Et selon moi, simple supporter de la bonne connerie, du bon vivre, tu me connais Arnaud, un avertissement aurait été le bienvenu en lieu et place de la lourdeur infligée par cette amende de 10 000 balles. 10 000 balles pour un club de Pro D2, c'est 10 000 euros pour l'association, ne l'oublions pas. Mes mots n'ont pas pour but de narguer la Ligue et faire chialer la ménagère à grands coups d'envolée émotionnelle, larvée de colère, mais pour mettre en mots ceux du peuple rugby, amateur ou pro, qui s'exprime le long des rambardes et dans les bars. Tous et toutes, nous voulons défendre ces prises d'initiatives spontanées, exceptionnelles, ces moments humains essentiels à la survie de nos valeurs. À nous de jouer ensemble et dans la bonne humeur, maintenant que la stupeur et la colère sont passées. Et allez, pour conclure, je vais finir par un jeu de mots bien pourri que chacun interprétera à sa sauce. Prouvons ensemble que même si la cabane est tombée sur le chien n'est pas mort.
Allez, deuxième partie dans Poulain Rafute. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Julien Dupuis, passé par le Biarritz Olympique, les Tigres de Leicester ou encore le Stade Français, l'ancien demi de mêlée. S'est construit un sacré palmarès. On va évidemment en parler avec lui aujourd'hui, mais on va aussi parler de son actualité. Il est entraîneur, il a fait ses gammes au Stade Français, puis à Toulon durant deux belles années. Et puis, la semaine dernière, on a appris qu'il allait reprendre du service la saison prochaine du côté de Provence Rugby dans le staff de Maurizio Reggiardo. Et je crois, Raph, que tu avais envie d'en parler avec lui.
Bah déjà, Julien, c'est quand même un mec qui est profondément à l'ancienne, donc on les aime bien dans Poulain Rafute. Alors déjà, on a toujours tendance à se dire « Bonjour, Julien ».
Bonjour, Raphaël.
Alors, comment ça va, Julien ? Déjà, comment ça va ? Tu as eu une année sabbatique et connaissant ton caractère, elle n'a pas dû être de tout repos, notamment pour toi et surtout pour ta famille, non ?
Ouais, ça a été bien quand même de passer du temps en famille, mais c'est vrai que ça a été long. Ça a été long, donc on a toujours tendance à dire, tu sais, dès que tu n'as plus de club, profite un peu. C'est vrai qu'on profite, c'est génial, mais ça manque très vite en fait.
Ouais, au bout de 15 jours, ouais, tu as vite fait, t'as avec une envie, c'est d'y retourner. Donc Arnaud l'a dit, hein, tu reprends du service du côté de Provence Rugby. C'est un super challenge dans un club avec de grandes, grandes ambitions. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait ?
Ben, ça s'est fait par le biais d'un peu pas mal de monde, en fait. Je crois que mon nom est sorti pas mal à Provence. Donc j'ai rencontré Mauricio, j'ai rencontré le président. Donc on a eu des entretiens, ça s'est plutôt… plutôt bien passé, j'ai envie de dire un peu classique, quoi. Un peu classique.
Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de Provence Rugby ? On sait, hein, Denis Philippon a de grandes ambitions pour ce club, les infrastructures sont hyper professionnelles. Selon toi, pour arriver à franchir un cap et s'installer dans les 6 et en top 14, est-ce que c'est sur la durée ? On a vu qu'il s'est séparé l'année dernière quand même de pas mal de joueurs. Est-ce que pour fonctionner dans la durée et s'installer dans les 6, il ne faut pas un peu de pérenniser sur les joueurs actuels et sur le staff aussi ?
Oui, bien sûr. C'est un club ambitieux, mais qui veut construire les choses petit à petit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut un peu de stabilité. Il faut changer un petit peu des choses, forcément. Mais le plus important, c'est cette année, essayer de se qualifier parce que c'est des matchs importants. Et dans ce club-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs finalement qui se sont qualifiés, qui ont joué des phases finales. Et on sait l'importance d'en avoir joué pour y revenir les années d'après. Donc il va falloir bien construire cette année, prendre le temps de bien faire les choses pour pouvoir espérer quelque chose de bien en fin de saison.
Alors messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Julien. La grolle façon Poulain Rafute, Julien, tu vas voir, c'est un peu différent et c'est maintenant.
Comme j'ai été soft, alors on le sait, on l'a déjà dit ici, la vie d'entraîneur n'est pas un long fleuve tranquille. La valise toujours à la main et toujours prêt à valser, à se faire lourder. Métier à risque psychologique, surtout à l'heure, où on parle de plus en plus des RPS, des risques psychosociaux pour les joueurs, pour les managers et les entraîneurs et les staffs. Voilà, ils sont toujours en première ligne. Alors vous me voyez arriver avec mon mauvais jeu de mots bien pourri, ma transition bien pourrie. Julien n'a jamais joué en première ligne et fait partie de la trempe des numéros 9 de caractère. Éternel, insatisfait, perfectionniste, c'est le Bakri du rugby. Et je pense qu'il se partage le rôle un peu avec Kiki Losuk. Hein, alors, trêve de galéjade, leader dans l'âme. Et fin stratège, comme tu l'as dit, Arnaud. Julien, tu as su prendre des risques et te mettre en danger tout au long de ta carrière. Parti de Biarritz après deux titres vers Leicester, arrivé au Stade français alors que le club vit une transition délicate. Tu fais partie de ces types à l'ancienne, comme on dit, qui a connu plusieurs aventures. Et d'ailleurs, dans chaque club, son titre avec le BO, avec Leicester en 2009, avec le Stade français en 2015, et puis cette Tourtel Cup, la petite Coupe d'Europe. 350 matchs de haut niveau, 8 sélections avec le 15 de France. Tu as été successivement entraîneur du Stade français, avec les U20, l'équipe de France, puis au RCT jusqu'à l'année dernière. Tu viens de signer donc à Aix en Provence, et tu vas nous expliquer justement un petit peu tes choix, voilà, ta carrière, ta vie. Il y a des mecs qui puent le rugby, qui vivent rugby. Tu fais partie de ces gonzes passionnés. On imagine que, comme je disais, cette année sabbatique a été compliquée. Alors, tu es resté éloigné des terrains après deux ans dans le staff du RCT. Est-ce que le terrain déjà t'a manqué? Parce que tu nous l'as dit, hein, je pense que passé 15 jours, tu as vite envie d'y revenir, mais je pense que ça manque quand même pas mal.
Ouais, c'est un manque, forcément. Hein. Forcément, on ne fait pas ce qu'on aime, donc c'est un manque. Voilà, j'ai la chance d'avoir quand même aussi une famille soudée, donc j'ai profité d'eux, donc ça c'était important, mais forcément, ouais, ça manque le terrain, ça manque les échanges, ça manque un peu le stress du match aussi, donc tout ça, c'est pas tout le temps évident, mais bon, on va pas s'apitoyer sur nos sorts, hein. On on sait très bien que quand tu t'embrasses la carrière d'un entraîneur, ça bouge, des fois en bien, des fois en mal, donc c'est des choses qu'il faut appréhender de la meilleure des façons, quoi.
Julien, moi, il y a une question que j'ai souvent voulu te poser et qui me taraude un peu l'esprit. On a souvent dit de toi que tu étais un fin stratège lorsque tu étais joueur. Tu n'étais pas le plus réputé pour les capacités physiques et tout ça, mais tu avais cette qualité de stratège, de meneur d'homme. Est-ce que finalement, tu n'as pas toujours été un peu entraîneur au fond de toi?
Ouais, je sais. C'est difficile à répondre à cette question parce que… Quand tu es joueur, quand même, tu peux pas. Tu es sur le terrain, donc tu fais les choix après, mais ce n'est pas toi qui propose que ce soit le plan de jeu ou ce que tu vas mettre en place pour le week-end. Donc après, stratège ou ce genre de choses, c'est plutôt quand tu es sur le terrain, s'adapter à ce que tu as en face, en fait. Voilà, tu as des entraîneurs qui sont payés pour t'entraîner, pour te dire de quelle manière on doit jouer le week-end, enfin, toutes ces choses-là. Mais quand tu es joueur, quand même, tu te dois de respecter un peu ça. Ou si ça ne marche pas, tout du moins de prendre les initiatives pour faire basculer le match ou tout du moins pour gagner.
Et cette fibre, tu l'as quand même développée avec, tu me vois venir, avec Gonzalo Quesada, notamment lors de la saison 2014-2015, on ne vous voyait pas champion et pourtant avec une génération exceptionnelle qui était en devenir, avec Pierrot aussi qui avait été renouvelé, avec Jeffy, vous avez pris une importance aussi à la fois psychologique à l'intérieur du groupe, mais aussi d'être force de proposition. Et c'est tout ton parcours d'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, de Biarritz, Leicester, ce caractère, et puis le Stade français, avoir connu la merde au stade. Voilà, je pense que ça forge cette vision. Et puis cette confiance aussi que Gonzalo, en coach qui aime beaucoup le coaching mental, bah, ça aide en fait à devenir coach un peu plus facilement que si tu étais prédestiné à être tourneur fraiseur ou brancardier, non?
Ouais, forcément. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir des coachs d'horizons différentes, vraiment d'horizons différentes tout au long de ma carrière, des systèmes de jeu différents, des manières de manager différentes. Donc tout ça, c'est intéressant aussi avec le recul de voir comment les coachs fonctionnaient. Après, bon, sur cette saison 2014-2015, quand on finit par gagner le titre, ce qui a eu d'hyper intéressant, c'est que quand même, on a eu beaucoup de liberté, nous les joueurs, de pouvoir s'exprimer sur et en dehors du terrain. Donc ça, c'était intéressant. Et je pense qu'il y a eu une relation de confiance aussi avec le staff, dans le sens où ils voyaient qu'on n'était pas là pour tricher et que peu importe ce qui se passait sur le terrain, on essayait de le faire pour le mieux et pour gagner les matchs. Donc voilà, après, dans cette équipe-là, dans cette année-là, il y avait quand même beaucoup de caractère, énormément. Donc, ce qui a été hyper intéressant, c'est que tous ces caractères-là sont mis au service de l'équipe, quoi, au service du groupe, et ça fait presque une saison parfaite, en fait, j'ai envie de dire.
Pour pouvoir gagner des titres, tu en as gagné, je l'ai dit, avec Biarritz, avec Leicester, avec le Stade français, est-ce qu'il n'y a pas ce, ce supplément d'âme, je le dis souvent justement dans l'émission, mais tu vois, ce supplément d'âme qui permet justement de gagner ces matchs comme au Racing. Vous êtes à 14 contre 15 notamment et vous finissez la saison et on connaît la suite. À Biarritz aussi en 2005, les matchs compliqués, 2006, pardon. Voilà, c'est ce supplément d'âme qui permet de franchir un cap. Est-ce que tu ne vas pas t'inspirer de ça toi aussi pour apporter ce supplément d'âme aussi à Aix pour pouvoir s'installer dans les 6, je le disais, et puis pouvoir être champion un jour, hein. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, bien sûr. Mais le supplément d'âme, on peut le voir aussi. De toute façon, le supplément d'âme, le rugby peut évoluer, parce que tu peux faire ce que tu veux. Le caractère d'un groupe, l'amitié, l'amour qu'il y a dans un groupe, c'est hyper important. Tu vois encore le titre de La Rochelle il y a la semaine dernière. On sent quand même que c'est un groupe qui s'aime. Tu joues les uns pour les autres. Et ça, tu ne peux rien changer. Tu peux mettre les systèmes, ce que tu veux en place, tout ça. Ça, c'est le plus important. Et après, c'est ce qui est important, je trouve, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est que ce soit les joueurs qui prennent les choses en main sur le terrain. C'est-à-dire que, ouais, on leur donne des billes, on essaye de les sensibiliser sur certaines choses, de leur apprendre des choses. Mais après, sur le terrain, il faut pas les enfermer. Je pense que c'est eux sur la prise d'initiative. Bien sûr, une prise d'initiative qui aide le groupe, qui aide l'équipe sur le match, mais c'est eux sur le terrain. S'ils arrivent, eux, à mettre en place, ou en tout cas, leur faire croire que c'est eux qui mettent en place les choses, c'est gagné, je pense.
Julien, t'as passé une année, on l'a dit, au TIC de Leicester, hein, c'était en 2008-2009, une belle année, puisqu'il y a quand même un doublé, championnat Coupe d'Europe, ce qui est pas anodin. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as finalement retenu, qu'est-ce que tu as appris de cette année passée en tant que joueur et pas qu'est-ce que tu as appris pour jouer, mais qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience aujourd'hui dans ton management et qui peut être utile justement dans ton rapport avec les joueurs. On sait que le monde anglo-saxon est un peu différent. On avait déjà évoqué le sujet. Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues et dont tu te sers aujourd'hui?
Oui, il y a plein de choses. Déjà, la première chose, c'est que les restaurants anglais, ils ne sont pas bons. Ça, c'est une des choses qui est importante, il faut le dire. Et non, après moi, ce qui m'avait surpris, même si ça a évolué, Arnaud, maintenant, quand même, tu vois, moi, ce qui m'avait surpris, c'était le travail physique là-bas. Ça m'avait énormément surpris de la manière dont ils bossaient. Et plus après, sur la partie rugby, sur ce genre de choses, ce qui m'avait réellement surpris, c'est que déjà, l'anglo-saxon est plus facile à gérer qu'un français, qu'un latin. Ça, c'était une certitude. Et par exemple, tu vois, sur des vidéos, ce genre de choses, nous, on va faire une action en France, on peut peut-être passer une demi-heure à dire « Ah, tu aurais dû venir comme ci, tu aurais dû faire ça, tout ça », alors qu'en Angleterre, en tout cas, moi, quand j'y étais, ce qui m'a surpris, ils disaient juste simplement « Bon, ben, ils ont bien défendu, bravo eux ». Tu vois, ils ne passaient pas une demi-heure sur un truc, sur un mec qui était en avance d'un mètre ou l'autre qui était en retard de une seconde, voilà, ils considéraient que la défense avait le droit de bien défendre. Et ça m'a surpris parce que finalement, nous en France, on remet tout en question très vite pour tout. Et eux, ils restent quand même dans leur système, ils ont confiance à ce qu'ils mettent en place. Et j'avais trouvé ça très intéressant.
On va parler un peu amitié. Tu es resté très proche justement de toute la clique de 2015 et bien avant, j'imagine, mais proche de Sergio Parisse. On imagine que tu as regardé la finale de Challenge Cup du RCT. On dit que Sergio pourrait intégrer le staff toulonnais la saison prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que votre duo se reforme au sein d'un staff ou est-ce qu'il y a une volonté commune, un échange? Alors, c'est dans l'utopie hein, de pouvoir se projeter plus tard parce qu'il faut qu'il fasse ses armes, mais de se retrouver peut-être un jour sur le bord du terrain avec Sergio, ça aurait de la gueule quand même.
Oh ben c'est pas tout le monde connaît notre amitié. Il était encore à la maison hier, donc voilà. Forcément, on n'en parle pas tout le temps, mais on l'a dans un coin de la tête. On l'a dans un coin de la tête. Voilà, je pense que on aimerait bien essayer tous les deux. Donc voilà, comme tu disais, Sergio il va faire ses armes parce que c'est pas facile. Hein. Ça a été un grand joueur, même s'il lui reste encore un match. Voilà, maintenant il va passer de l'autre côté, il va voir toutes les emmerdes que ça apporte. Et voilà, mais je suis persuadé que comme il a mené sa carrière de joueur, voilà, il va la mener de la même manière sa carrière d'entraîneur. Donc forcément, pour tous les deux, ça sera, c'est pas un objectif, mais on espère qu'un jour ça puisse le faire, ouais.
J'aimerais juste faire une petite parenthèse. On a vu ce qui s'est passé au sortir de Thomas Savard, à qui on rend hommage justement, parce que sinon le club, on le sait, hein, serait en Fédéral 3. Au sortir de Thomas Savard, le Dr Ville voulait faire du club du Stade français une machine de guerre, et un peu le Bayern de Munich à l'époque, c'était le Bayern de Munich de l'Europe du rugby. Ils se sont retrouvés un an plus tard aux portes de la relégation. Pourquoi je parle de ça? C'est que tu es très attaché au club, on le sait, voilà, t'as fait quand même l'essentiel de ta carrière là-bas. Comment t'as vécu ce passage un peu délicat? Thomas Lombard, aujourd'hui reconstruit avec Gonzalo, que tu connais très bien, reconstruit, essaye de reconstruire après ce passage où la génération que t'as connue et que t'as amenée au très haut niveau, les Jules Plisson, les Flancard, Sergio aussi, qui a été remercié un peu salement, on va dire. Comment t'as vécu ça de l'extérieur, sans tirer sur le club, parce que bon, c'est ce qui est passé, mais c'est, ben, nous, en tant que supporters, quand on n'y joue plus, on est toujours supporters du stade un petit peu, même si on joue ailleurs, mais comment tu as vécu cette période un peu délicate? Toute cette génération que tu as tirée vers le haut a été un peu remerciée salement, non?
Ouais, ça a été une période compliquée. Ça a été une période compliquée, donc je n'ai pas l'habitude de tirer sur l'ambulance, mais... Donc déjà, je suis content que là, le club aille mieux. Il va faire des phases finales, donc c'est important pour le club, c'est important pour les joueurs. Je pense que c'est important pour Dr Ville aussi, parce que voilà, il y laisse de temps et quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est bien que le club retouche aux phases finales. Ensuite, bah, cette période-là, elle a été compliquée parce que voilà, avec tout le respect que j'ai eu pour ce manager qui était là, j'ai trouvé qu'il n'allait pas du tout avec le club, tout simplement. Moi, je l'avais eu un peu en tant qu'entraîneur à Leicester. Voilà, c'était déjà compliqué à Leicester. Mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre ce club qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais différent. Il est différent, hein. C'est Paris, c'est le Rose. Et je trouvais que ben, ça, ce manager-là n'allait pas avec... Avec la philosophie du club, même si faut pas se le cacher, il y avait beaucoup de choses à changer parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui se passait au club tous les ans, quoi. Il y avait pas de stabilité, mais on a l'impression que finalement que quand il y a pas de stabilité, c'est ce que ce club aime, c'est ce que les joueurs aiment. Donc voilà, c'était des choses à changer. Ça a été douloureux. Bon, moi j'en ai connu les frais, j'en ai fait les frais, d'autres aussi. Voilà, ça a été dur de voir certains joueurs, en tout cas, se faire remercier de cette manière-là. Après, voilà, on sait très bien que l'institution, le club est plus important que les joueurs, mais je pense qu'il y a des manières de faire. Donc, voilà, là-dessus, ça n'a pas été très propre. Bon, j'ai l'impression quand même que depuis, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, en tout cas pour les joueurs. Donc voilà, j'espère qu'ils vont finir la saison de belle manière et que le club va pouvoir repartir un peu de l'avant.
Julien, j'aimerais moi creuser un peu ce début de carrière d'entraîneur plutôt prometteur. Est-ce que, on l'a évoqué brièvement au début de l'émission, c'est Raph qui en a parlé, est-ce que c'est difficile, même pour un jeune entraîneur, de savoir que on part pour une aventure de 2 ans, mais qu'au bout de 6 mois, ça peut se terminer, que les valises sont toujours prêtes, qu'on s'installe 2 ou 3 ans, tu as des enfants, tu as une vie de famille. Est-ce que c'est compliqué, même quand on est un jeune entraîneur, qu'on est motivé, qu'on veut aller de l'avant? Est-ce que cette situation, elle est pesante? Et on a l'impression, et cette année, c'est encore plus vrai, quand on voit le marché des managers et des entraîneurs en top 14 en Pro D2 qui a été totalement bouleversé, est-ce que c'est pesant à vivre au quotidien?
Ouais, c'est pas pesant, mais déjà il faut essayer de pas y penser parce que sinon tu dors pas de la nuit. Mais on sait très bien que ça va arriver. Donc il faut que ça t'arrive une fois pour le comprendre et puis après ça va un peu mieux. Mais ce qui est embêtant, c'est surtout pour la famille et ses proches, quoi. Donc moi j'ai les enfants en bas âge, voilà, ça reste encore un peu facile, j'ai envie de dire, mais et puis ma femme, elle aime bouger, donc pour l'instant ça va, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que finalement tu t'attaches aux gens dans lesquels tu travailles, tu t'attaches au club, tu t'attaches aux joueurs, et c'est vrai que par moment, ça se finit plus vite que prévu, donc voilà, il faut s'adapter. De toute façon, tu sais très bien que c'est un métier qui est comme ça, donc voilà, il faut essayer de donner le maximum pour rester le plus longtemps possible, quoi.
Est-ce que petite question vacharde, entre guillemets, pour avoir de la stabilité, finalement, il faut être entraîneur de sélection parce que c'est des baux de 4 ans. Est-ce que dans la mesure où tu as entraîné un peu les moins de 20, tu n'as pas été tenté de glisser un petit mot à Fabien Galthié qui cherche un successeur à Laurent Labitte pour entraîner l'attaque?
Non, du tout, du tout. Je pense qu'il y a d'excellents entraîneurs des trois quarts qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc voilà, il faut prendre son temps. Là, j'ai un bon projet qui arrive où je vais avoir des responsabilités importantes sur l'attaque et les trois quarts. Donc, c'est ce que je voulais aussi. Mais non, on a la chance quand même en France d'avoir des entraîneurs de qualité. Donc voilà, je pense que Fabien, il va prendre quelqu'un avec plus d'expérience. C'est tant mieux.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier d'entraîneur? C'est quoi la stratégie? Établir des plans de jeu? Étudier le jeu de l'adversaire? Je pense que ça fait partie de la stratégie. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi la relation humaine qu'un entraîneur peut tisser avec ses joueurs? C'est un peu un mix de tout ça?
Ouais, mais c'est exactement ça. C'est le mix de tout ça. Même si tu ne peux pas avoir la même relation avec les joueurs quand tu joues avec eux. Mais voilà, puis c'est aussi la progression des joueurs aussi qui est importante. C'est hyper, je dirais le terme, c'est hyper mandant de voir des joueurs progresser. Des joueurs progresser, c'est hyper mandant de voir tout ce que tu prépares la semaine et qui est réussi le week-end, ce genre de choses. Mais la relation humaine, elle est hyper, pour moi, elle est hyper importante en tout cas, d'avoir cette relation-là avec les mecs, avec le staff, avec les prépas physiques, avec le staff médical et tout ça. Je trouve ça très très important. Et après, il y a le stress du match aussi que, bon, moi, quand j'étais joueur, j'étais pas trop stressé, mais là, c'est différent puisque finalement, t'es pas sur le terrain, donc tu commandes rien, quoi. Et autant des fois, t'as envie de rentrer sur la tête et leur tirer les oreilles un peu parce qu'ils t'énervent, autant des fois, tu les aimes parce qu'ils font des choses extraordinaires. Donc, ce qu'il y a de beau aussi dans ce métier-là, c'est que comme je disais, tu commandes rien, t'es dans les tribunes, Donc voilà, tu dois faire confiance à tes joueurs. C'est pour ça que je trouve qu'il faut leur laisser la place de s'exprimer, il faut leur laisser la place de prendre des initiatives. C'est important, je trouve.
Est-ce que tu as senti une transition pour avoir échangé quand même avec pas mal de managers et pas mal de coachs? Est-ce que tu as réussi à faire le deuil du joueur que tu étais pour, je dirais, motiver tes joueurs inconsciemment? Non pas comme toi, t'aimais être motivé, ou c'est de connaître le joueur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est arriver à couper avec le joueur que tu as été pour pouvoir vraiment te tourner et passer de l'autre côté, côté du vestiaire. Et comment tu l'as vécu, ça, justement?
Au début, ça a été compliqué parce que quand tu regardais les matchs, les entraînements, tu comprends pas pourquoi tel joueur fait ça, alors que toi, tu aurais fait différemment. Mais ça va mieux maintenant, ça va mieux parce que en discutant avec les mecs, en discutant avec les joueurs, pourquoi tu prends telle initiative, tout ça, tu comprends qu'ils n'ont pas la même vision que toi et finalement tu t'adaptes aux joueurs, tu t'adaptes au caractère du mec, tu t'adaptes à ses qualités et ses défauts et ça finalement c'est la chose la plus intéressante, c'est la chose la plus intéressante quand tu es entraîneur parce que toi tu as une vision du rugby que tu essaies de partager avec les joueurs ou avec ton staff sans changer forcément les mecs, essayer de leur amener un peu cette vision-là. Si tu arrives à les amener à jouer la vision que toi que tu as du rugby, c'est gagné en fait. C'est ça qui est important.
Julien, on a un peu évoqué un peu le sujet, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur sur les entraîneurs qui t'ont inspiré. Tu en as connu plein. On a parlé de Gonzalo Quesada, hein, effectivement, avec qui tu avais une très belle relation, notamment l'année du titre. Tu en as eu d'autres. Tu as eu Marc Lièvremont qui t'a donné ta première sélection en Nouvelle-Zélande. Je rappelle quand même que tu as été, pour ta première sélection, auteur de 12 points et d'une victoire de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Hein, c'était en 2013 quand même, petit exploit au passage. Mais est-ce qu'il y a des entraîneurs? Pardon,
2009.
2009, pardon, oh là là, 2013, c'était... mais il y a eu une autre victoire. 2009, oui, je te voyais plus jeune, Julien, c'est pour ça. Non, mais est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué ou est-ce qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui, le travail qui est fait par exemple par Ronan O'Gara avec La Rochelle, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? J'aimerais que tu nous dises un peu quelles sont tes sources d'inspiration.
Finalement, je dirais pas en positif ou négatif, mais de manière différente, ils m'ont tous un peu inspiré. Et ce n'est pas la langue de bois de faire ça, parce que je ne suis pas connu pour faire la langue de bois trop, quand même. Non. Mais ils m'ont tous inspiré pour plein de choses. Et c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, maintenant, tu te rends compte que, Mais tu arrives avec une philosophie ou une manière de manager et c'est pas facile de, je dirais, de la faire éclabousser un groupe. Donc voilà, après, je trouve qu'en France, on a quand même de la chance et je trouve ça important d'avoir encore un rugby un peu de région, je dirais, tu vois, de région où voilà, La Rochelle joue d'une manière, de leur manière, Toulouse joue de leur manière. Castres joue d'une manière différente encore, et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de managers qui le disent, ils ont raison de le répéter, pour gagner des matchs t'es pas obligé de jouer du large et tout ça, et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc chaque manager, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins on joue de manière différente en France, ce qui n'est pas le cas dans quand même beaucoup de pays où tous les clubs ou toutes les provinces se copient, et que finalement je dirais pas que c'est ennuyeux, mais c'est un peu ouais, si, c'est un peu chiant quoi.
Il y a pas d'identité propre à chaque équipe en tout cas.
Ouais.
Pour résumer.
Julien, s'il y avait un souvenir ou on dirait un titre à garder, comme on l'a dit, hein, t'as gagné au BO, t'as gagné à Leicester, t'as gagné au Stade. Si on avait en particulier à garder en mémoire, c'est difficile hein, comme question parce que tout groupe est différent, toute histoire est différente, on le sait. Mais si on avait un en particulier.
Mais en fait, si je les compare, la chose qui est différente, c'est que si tu reprends les deux années où on gagne avec Biarritz, t'es fabriqué pour gagner. T'as une équipe de boucher. C'est monstrueux. Donc, t'es fabriqué pour gagner. Et Leicester, je te dirais que c'est un peu la même chose. Leicester, t'es fabriqué pour gagner. Voilà, tout est mis en place. T'as une équipe de tueurs à gages. Donc, l'équipe de Paris, enfin, le titre de Paris, il est différent. Même si t'as une très, très belle équipe, t'es pas favori. T'es pas favori du tout. Tu sors d'années frustrantes. Voilà, tu espères faire les phases finales sans forcément gagner un titre, hein, même si dans ta tête tu ne penses pas comme ça. Mais alors que Biarritz et Leicester, voilà, comme je le disais, t'es prêt, tu sais que ton objectif c'est de gagner. Et voilà. Paris, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que la saison se construit du premier au dernier jour en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que toute la saison, alors tu n'as pas gagné tous les matchs, mais toute la saison, tu montes petit à petit, tu montes crescendo et tu sens que finalement, quand tu arrives devant les phases finales, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut jouer Paris parce que tu te dis, il ne peut rien nous arriver. Clairement, il ne peut rien nous arriver. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu pars d'une équipe où comme tous les ans, on te dit, à juste titre, hein, bon, de toute façon, ils vont finir 7e, 8e et tu finis champion. Et puis tu ne peux pas dire que ton titre, tu le galvaudes. Tu bats le Racing, Clermont et Toulon. Donc, bon, ça montre quand même que tu as les qualités pour. Et ce que j'avais aimé justement dans ce titre-là, c'est qu'on avait vraiment un groupe. Et c'est des choses bizarres, mais ça fait un peu à l'ancienne. Mais tu te dis quand même que ben, tu gagnes un match, va boire un coup, tu as 40 mecs qui viennent. Quand il y a 40 mecs qui viennent, bon, un coup, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, ça fait un peu à l'ancienne, rugby, là, tout ça, mais c'est important parce que c'est des choses qui sont difficiles à créer, qui sont très, très difficiles à créer, et par contre, qui sont faciles à défaire. Et quand tu arrives à tenir ça pendant un an, ben, je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, on est toujours content de croiser les mecs avec qui on a joué à cette génération-là, quoi.
C'est vrai que vous n'étiez pas attendu. Je rappelle quand même que même si vous avez marché sur la phase finale, lors de la dernière journée, je crois que vous en aviez pris 50 à Brive. Ce qui n'était pas de meilleur augure avant le début des phases finales, mais vous étiez déjà qualifié. Julien, on va toucher à la fin de cette émission. On a une petite question avec Raph, pas facile évidemment d'y répondre, mais tu l'as dit, tu es un jeune entraîneur, tu as 3-4 années aujourd'hui d'exercice derrière toi. Tu te vois où dans 10 ans ?
Bon, déjà, je vais tricher un peu. Dans 20 ans, je ne m'y vois plus, hein, je pense. Qui laisse de l'énergie, qui laisse beaucoup, beaucoup d'énergie. Non, dans 10 ans, j'espère que, pourquoi pas, être toujours à Aix-en-Provence, sans faire langue de bois, parce que c'est un club finalement qui est assez jeune dans le rugby de haut niveau. Donc, je n'y suis pas encore, donc c'est facile pour moi de dire ça, mais voilà, j'espère en tout cas y rester assez longtemps et faire progresser ce club, cette équipe, essayer d'aller au plus haut avec cette équipe-là. Après, voilà, je ne vais pas te dire, dans 10 ans, à tout moment, on sait très bien que rester 10 ans dans un club, c'est pratiquement impossible maintenant. Donc, j'espère que je serai dans un endroit qui me plaît, dans un endroit où ma famille se plaît et dans un club intéressant pour vivre des belles émotions.
Voilà, une belle réponse. Le mot de la fin, Julien, on est désolé, il est traditionnellement dans Poulain Rafut, pas pour l'invité, il est pour la star internationale qui a été Raphaël Poulain, Raph. On l'avait dit, ça faisait un petit moment qu'on essayait d'avoir Julien dans l'émission. C'est toujours riche d'échanger avec Julien Dupuis, non ?
Ouais, carrément. Moi, Julien, ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît. On n'a jamais joué l'un contre l'autre. Mais moi, j'ai découvert un mec énorme en arrivant à Paris en tant que supporter, et ancien joueur, mais supporter. C'est un mec qui collait carrément à l'ADN du club et surtout du rugby qu'on aime. Et c'est pas de la langue de bois que de dire qu'on a besoin de mecs comme ça, en fait, qui n'ont pas de langue de bois, justement, qui a un humour très subtil. Alors, on l'a pas vu, on aurait dû venir te chercher, mais qui est très, très bon.
Et on voulait voir qui était l'entraîneur aujourd'hui. C'était la thématique du jour.
Ouais, mais je pense qu'il a, voilà, il a bien appuyé sur le côté humain. Et je suis ravi que tu viennes à Aix. Comme je te le disais en off tout à l'heure, j'habite pas loin. Donc, au plaisir de réunir Sergio, ce pauvre Abadan, et puis qu'on se fasse une bonne bouffe sur une victoire un soir avec Aix. Peut-être finale, on verra bien en attendant. Merci pour ce moment, Julien. J'étais ravi de te revoir. Voilà.
Avec plaisir.
Bon, merci, Julien. Et nous, on va enchaîner, Raph, avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie, Raph, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé le week-end dernier, notamment vendredi soir avec le RCT qui a remporté pour la première fois de son histoire la Challenge Cup. C'était contre Glasgow, une performance marquée notamment par les présences fortes et symboliques de Sergio Parisse et de Mathieu Bastaro qui disputent les derniers instants de leur immense carrière. Et je crois, Raph, que devant ta télévision, tu étais vendredi soir un homme heureux.
Ouais, à la fois heureux et puis malheureux, heureux de voir Sergio Parisse terminer, parce qu'on connaît la fin de l'histoire de Sergio à Paris, mais il a eu comme un second souffle justement là-bas. Et puis Mathieu Bastaro, qu'on a vu se chibrer les deux genoux il y a encore un an, qui est revenu sur le terrain, qui voulait finir, comme il le disait, sur ses deux pattes. Donc coup de cœur, oui, à Mathieu Bastaro et Sergio, parce que tous les deux ont une carrière magnifique. Mathieu, voilà, il débute à Massy, en Fédéral 1, il est appelé en équipe de France très très rapidement et vite aussi mis dans le bain de l'équipe première au Stade Français, où il a connu des très très hauts, très très jeunes, et des très très bas, très très jeune aussi. Il a été très accompagné aussi. On a une petite dédicace aussi à faire à Mathieu Blin, qui l'a beaucoup soutenu, et tout le club d'ailleurs de la capitale. Et puis il a su rebondir, il a gagné ses titres à Toulon au pic de sa carrière, 3 Coupes d'Europe, un bouclier, un grand chelem, et voilà, chapeau l'artiste. Et puis Sergio Parisse, on le sait, il était attaché au Stade Français, je l'ai dit, où il fait ses débuts, très jeune en France. Il a vécu une seconde jeunesse à Toulon. Il est pour moi le meilleur numéro 8 au monde sur ces 20 dernières années. 2 boucliers, 142 sélections, 2 Challenge Cups, 5 Coupes du Monde. Un monsieur, une légende de notre sport. Alors, on leur souhaite une bonne retraite. Ce n'est pas encore fini pour eux. On leur souhaite d'aller le plus loin possible en top 14. Voilà, pour finir sur un titre, voilà, ce ne serait pas donné à tout le monde. Donc, chapeau les artistes et chapeau messieurs.
Alors justement, puisque tu parles de coup de chapeau, un autre coup de chapeau immense évidemment pour le Stade Rochelet, sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, c'était le week-end dernier, un exploit retentissant, une victoire sur le Leinster dans son antre de l'Aviva Stadium, un truc incroyable, improbable, utilisez le qualificatif qu'il vous plaira, rares étaient ceux qui y croyaient d'ailleurs avant la rencontre. D'ailleurs Raph, je crois que tu as un petit mea culpa à faire à ce sujet, non ?
Oui, merci de me mettre le nez dedans, bien sûr, merci de m'avoir fait mentir, je pensais que le Leicester allait rouler, justement, sur cette revancharde, comme on dit, sur cette finale. Alors, ils m'ont donné raison pendant les 20 premières minutes, donc j'ai sorti des pop-corns, et puis, voilà, force est de constater à la mi-temps que la Rochelle a repris, a su les faire déjouer, et faire la guerre 100% au pied pour l'instant, et 58% de possession, 58% dans le camp adverse, c'est deux fois plus de plaquage pour Leicester. Je ne suis pas amoureux des titres, hein, tu le sais, mais voilà, à part les 20 premières minutes irlandaises, c'est bien La Rochelle qui maîtrisait cette finale avec du caractère, du talent. Et puis surtout, j'ai trouvé quand même, pour parler un petit peu stratégie, alors j'y pipe rien, mais le coaching a quand même été énorme. Donc coup de cœur pour La Rochelle, le président Merlin qui a fabriqué de ses mains ce club depuis 91, une machine à gagner aujourd'hui. Hommage aux 40 000 supporters qu'on a vus sur le port, scander la victoire à la fin du temps réglementaire, et 42 000 personnes qui ont accueilli les joueurs et le bus. Et puis voilà, je pense qu'il faut Il faut rendre hommage aussi à un homme qui représente tout à fait l'état d'esprit à lui seul de cette équipe. C'est Romain Sazi, qui a connu la Pro D2, qui a un doublé en Coupe d'Europe. Et voilà, c'est un très, très bon mec et qui représente tout à fait l'ADN du club. Voilà, ce serait génial qu'il puisse clore sa magnifique carrière sur un doublé, le cul assis sur un bouclier. Franchement, il le mériterait. Et puis pour conclure, ça rassure, je pense, de voir l'hégémonie irlandaise se faire bousculer à 3 mois de la Coupe du Monde. Et voilà, ça risque d'inspirer les hommes de Fabien Galthié. Alors oui, l'Irlande n'est pas toute puissante. Et j'ai envie de dire rendez-vous en septembre, quoi.
Bon allez, faute avouée, à moitié pardonnée, on dira, Raph, pour cette fois, les supporters Rochelais ne t'en voudront pas. On va terminer là-dessus, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, Raph, toujours avec la banane, et puis du soleil, et puis plein de belles choses encore à venir dans Poulard Affûte, jusqu'à la fin de cette saison.
Ouais, merci beaucoup Arnaud, et merci aussi à Simon Farva, qui est réalisateur de cette émission. Très bon week-end rugby encore, et on se voit la semaine prochaine. Salut Arnaud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.